Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce lundi 26 juillet 2021. J'ai le plaisir de vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. La résistance palestinienne a abattu un quadrirotor israélien à l'est de Khan Younes dans la bande de Gaza. La DSA syrienne a intercepté des missiles tirés par les F-16 israéliens vers des installations dans la région de Damas. Et le président tunisien annonce la suspension des activités du Parlement et le limogeage du chef du gouvernement. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'un des commandants des Hashd al-Shaabi, unité de mobilisation populaire d'Irak, Rassim al-Kariti, a fait remarquer que les États-Unis n'étaient pas sérieux quant au retrait de leurs troupes d'Irak. La présence des forces américaines met au grand jour les mensonges du gouvernement irakien et de la partie américaine, a déclaré à la Head News, citant Rassim al-Kariti. Des caméras thermiques à Salahuddin ont capturé des images du transport des éléments de Daesh à l'intérieur de l'Irak par des hélicoptères américains, a averti le commandant irakien Rassim al-Kariti. Le maintien ou l'expulsion des troupes américaines est une question qui ne concerne que le peuple irakien. L'Irak n'a pas besoin d'une présence étrangère sur son territoire. Les forces de sécurité et la Hashd al-Shaabi peuvent se charger de la sécurité. De même, Abou al-Valayi, secrétaire général de Kataib Saïd al-Shouada, a souligné que toute promesse faite par le comité de négociation irakien n'a aucune valeur tant qu'elle n'honore pas la décision de l'expulsion des forces occupantes. Ceux qui plaident pour le maintien des troupes américaines en Irak doivent en accepter les conséquences, le massacre de la population et la violation de sa dignité. Des sources médiatiques ont fait part d'une attaque menée dimanche 25 juillet par la résistance palestinienne contre un quadrirotor israélien. La résistance palestinienne a abattu un quadrirotor israélien à l'est de Khan Younes, dans la bande de Gaza. L'axe de la résistance est prêt à toutes les options et ne permettra jamais à Israël d'imposer ses dictats à la résistance, a fait savoir le porte-parole du mouvement de résistance islamique palestinien Hamas, Azem Rassem, pour qui les attaques israéliennes contre Gaza sont une tentative de démonstration de force ratée, un moyen de honorer le blason d'une armée qui a été vaincue lors de la bataille. Pour sa part, Abdelatif al-Ranoua, un autre porte-parole du Hamas, a réitéré que si Israël continuait à saboter les aides à la bande de Gaza et ne levait pas l'embargo, une confrontation militaire serait inévitable. Après que les chasseurs israéliens eurent bombardé des districts au nord et au sud de la bande de Gaza, La résistance palestinienne a pris pour cible les avions agresseurs grâce au système de défense aérienne, a rapporté un correspondant de l'agence presse palestinienne Shahab. L'armée israélienne a pour sa part déclaré que ces avions de combat avaient bombardé une base militaire du Hamas en réponse à des tirs de ballons incendiaires. Au moins 4 incendies dans la colonie sioniste Eshkol ont été déclarés près de la frontière avec la bande de Gaza. Simultanément au lancement des ballons incendiaires depuis la bande de Gaza, 4 incendies ont été signalés dans des colonies sionistes près de la frontière de la bande de Gaza. Des autorités israéliennes n'ont diffusé aucun détail sur ces incendies. Plutôt, des groupes palestiniens dans la bande de Gaza ont averti qu'ils reprendraient l'envoi de ballons incendiaires vers les colonies sionistes situées autour de la bande de Gaza. Le régime sioniste cherche à conditionner la réduction du siège de Gaza à l'échange de prisonniers, mais les responsables des groupes de la résistance palestinienne ont insisté sur le fait qu'ils ne se soumettraient pas au chantage de l'ennemi et que les prisonniers sionistes seraient libérés en échange de la libération des prisonniers palestiniens. Les systèmes de défense aérienne syriens ont détruit 2 missiles tirés par les avions de chasse israéliens F-16 vers les installations dans la région de Damas, a déclaré dimanche le contre-amiral Vadim Kulit, directeur adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Cela survient juste après que les systèmes de défense aérienne Buk M2E de fabrication russe aient abattu toutes les roquettes lancées sur la province syrienne centrale de Homs aux premières heures de jeudi. 2 avions de combat israéliens F-16 ont tiré 4 missiles guidés sur plusieurs installations de la province de Homs. Les médias d'État syriens ont également attribué les frappes à l'armée israélienne, qui n'a jamais nié ni revendiqué la responsabilité de l'attaque. Aux premières heures de dimanche, 2 avions de combat israéliens F-16 ont mené une frappe aérienne contre des installations de la colonie de Sayyid Zainab au sud de Damas. Les 2 missiles ont été détruits par les systèmes de missiles russes Buk M2E qui sont utilisés par les forces de défense aérienne de l'armée syrienne, a déclaré le contre-amiral Vadim Kulit. Lundi, la télévision publique Al-Irpalia a rapporté que la défense aérienne syrienne repoussait une attaque aérienne d'Israël contre la ville syrienne d'As-Safira dans le gouvernorat d'Alep. L'armée russe a confirmé plus tard que 7 missiles tirés par des F-16 israéliens sur la Syrie avaient été détruits par les systèmes Pantsir-S et Buk M2 de la DESA syrienne. Il est à noter qu'Israël utilise l'espace aérien du Liban pour lancer des frappes contre la Syrie, tandis que certaines des roquettes sont lancées depuis les hauteurs du Golan occupé. Le président tunisien Kais Saied a annoncé la suspension pour 30 jours des activités du Parlement, la levée de l'immunité parlementaire des 217 députés ainsi que le limogeage du chef du gouvernement, Hichem Mechichi. Selon la Constitution, j'ai pris des décisions que nécessite la situation afin de sauver la Tunisie. L'État et le peuple tunisien, a déclaré M. Saïd à l'issue d'une réunion d'urgence au palais de Carthage avec des responsables des forces de sécurité. Nous traversons des moments très délicats dans l'histoire de la Tunisie, a-t-il ajouté. M. Saïd a déclaré qu'il assumerait le pouvoir exécutif avec l'aide d'un nouveau Premier ministre dans le plus grand défi à ce jour pour le système démocratique que la Tunisie a introduit lors d'une révolution de 2011. Rappelons que le président a pris ses décisions pour préserver l'intégrité du pays, assurer le fonctionnement normal des institutions de l'État. La présidence de la République tunisienne a appelé dans un communiqué les Tunisiens à faire attention et ne pas se glisser derrière les partisans du chaos. Cette note a été publiée tard dans la soirée de dimanche, au moment où des unités de l'armée ont été déployées aux alentours du siège de l'Assemblée des représentants du peuple, ARP, le Parlement tunisien. Cependant, le président du Parlement, Rached Ranouchi, qui dirige également le parti Nahda, n'a pas hésité à qualifier les décisions du président Kais Saied de coup d'État contre la révolution et la Constitution. Ce dimanche, la capitale et plusieurs autres provinces tunisiennes ont été le théâtre de massives manifestations de protestations réclamant le départ du gouvernement de Hichem Mechichi et la dissolution du Parlement. 28 lycéens ont été libérés par leurs ravisseurs dans le nord-ouest du Nigeria. Le groupe qui avait enlevé début juillet 121 adolescents dans un lycée du nord-ouest du Nigeria a relâché 28 nouveaux otages, mais 87 écoliers et lycéens sont toujours pris en otage par les ravisseurs. 28 ont été relâchés et nous les avons ramenés avec leurs parents. Les criminels les ont relâchés hier et nous sommes allés les chercher avec les bus de l'église, a déclaré le révérend Joseph Ayap, l'un des responsables du lycée Baptiste Bethel. Les élèves ont passé la nuit dans l'école avant que les autorités n'appellent leurs parents tôt dimanche pour leur demander de venir les récupérer. En tout, nous avons 34 enfants qui ont retrouvé leur liberté et 87 qui sont toujours pris en otage par les bandits. 5 enfants s'étaient enfuis le 21 juillet dernier. 2 d'entre eux avaient été retrouvés par la police. Les 3 autres avaient réussi à rejoindre l'école par leurs propres moyens, a-t-il souligné. Le 5 juillet, des hommes armés ont envahi au cours de la nuit les dortoirs du lycée Baptiste Bethel, situé à Chikun, dans l'état de Kaduna, avant de kidnapper ses pensionnaires âgés d'entre 10 et 19 ans. Cette attaque est la dernière d'une série d'enlèvements de masse d'élèves commis dans le nord-ouest du Nigeria par des groupes criminels organisés. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Défilé naval à Saint-Pétersbourg. L'Iran fait une démonstration de force. À écouter le président russe, qui ayant assisté le dimanche 25 juillet à la grande parade annuelle de la flotte russe sur la Neva à Saint-Pétersbourg, se félicitant que la flotte russe soit capable de détecter et de détruire n'importe quelle cible et qu'aujourd'hui elle est tout ce qu'il faut pour défendre de manière infaillible la patrie et les intérêts nationaux russes, on croirait que c'est le parcours de la marine iranienne qu'il est en train de décrire. Eh bien, peu d'analystes seraient enclins à se garder de faire le parallèle à cette 7e flotte iranienne, invitée d'honneur de cette grande parade navale arrivée à Saint-Pétersbourg samedi 24 juillet. Le commandant de la marine iranienne, le contre-amiral Hossein Khanzadi, y prenait d'ailleurs un rafale spécial sur une invitation officielle du ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. Le contre-amiral Hossein Khanzadi a qualifié la présence des navires iraniens Sarand et Makran dans le golfe de Finlande d'événement historique. Son succès signifie l'ouverture des portes de la mer du Nord et de la Finlande à la flotte iranienne. Il prévoit également de rencontrer de hauts responsables de l'armée russe et ses homologues au sein des pays ayant participé au défilé de la marine russe. Les médias américains et britanniques ont passé des mois à s'inquiéter de la cargaison et de la destination possible d'une flottille de navires de guerre iraniens à deux navires qui s'est déployée dans l'océan Atlantique ce printemps. Plutôt ce mois-ci, le commandant de la marine iranienne s'est vanté que l'Amérique avait été terrifiée par la nouvelle capacité de l'Iran à projeter sa puissance. Le destroyer iranien Sarand a participé dimanche à un grand défilé naval à Saint-Pétersbourg, en Russie. Le destroyer de la classe Moj a rejoint plus de 50 autres navires dans le défilé. Dédié au 325e anniversaire de la marine russe, l'Inde et le Pakistan envoyant également des navires de guerre en Russie pour l'occasion. Le Sarand, qui est arrivé à Saint-Pétersbourg avec le navire de soutien Makran, a été vu naviguant dans le port de Kronstadt lors des festivités de dimanche, battant le drapeau national iranien alors que des officiers et des marins se tenaient au garde-à-vous. Avant de se rendre en Russie, le Sarand et le Makran ont traversé les eaux danoises, le ministère de la Défense du pays ayant publié des photos des navires de guerre traversant ces territoires maritimes. Les navires ont commencé leur voyage en mai, se dirigeant vers le sud, à travers l'océan Indien, faisant le tour du cap de Bonne-Espérance, puis voyageant vers le nord-ouest jusqu'à la côte ouest de l'Afrique, se déployant dans l'océan Atlantique pour la première fois dans l'histoire navale de l'Iran. La destination des navires a fait l'objet de mois d'intenses débats de la part des médias américains qui craignaient qu'ils ne transportent des armes ou du carburant vers le Venezuela et envisageaient même la possibilité de déployer la puissance navale américaine pour tenter de les arrêter. Cependant, la semaine dernière, au lieu de se diriger vers le Venezuela, le Sahan et le Makran ont navigué de manière inattendue sur la côte nord-ouest de la France et à travers la Manche, à travers le détroit du Danemark et dans la mer Baltique pour participer au défilé à Saint-Pétersbourg. Ce voyage a suscité de nouvelles craintes, cette fois dans la presse britannique, alors que les navires pourraient avoir tenté de recueillir des renseignements pendant leur transit. Le Sarand est un navire de guerre de la classe Mauch avec un déplacement de 2500 tonnes, une longueur de 95 mètres et un effectif de 140 officiers et marins. L'équipement du navire comprend des radars à longue portée, des systèmes de guerre électroniques et de leurre, des canons navals, des canons et des mitrailleuses et des missiles solaires et sol-sol, en plus des torpilles pour la guerre anti-sous-marine. Le navire a de place sur sa baie d'atterrissage pour un hélicoptère, bien que le Sarand ne semble pas en avoir apporté un au cours de son long voyage transocéanique. Le Sarand a dans le passé été décrit par l'Iran comme un destroyer avec un déplacement de 2000 tonnes. Il est plus précisément catégorisé comme une frégate ou même une corvette. Le Sarand est équipé de lanceurs de missiles de croisière antinavire subsonique, Radar, ainsi que de missiles solaires Sayyad-2, une adaptation iranienne du missile américain RIM-66 Standard 1 SM-1. Le navire de guerre comprend également un canon principal de 76 mm et des tubes lance-torpilles, ainsi que divers canons automatiques et mitrailleuses pour une défense rapprochée. Le Makran, du nom de la région côtière du Baloutchestan, est un type de navire de guerre fondamentalement nouveau construit par les constructeurs navals iraniens à partir d'un pétrolier reconverti. Mis en service en janvier, le navire de 230 mètres de long et de plus de 111 000 tonnes est conçu pour servir de base maritime mobile pour les opérations navales à longue portée et peut transporter du carburant, des fournitures, des armes et une grande variété d'équipements dans sa coupe et sur haut de son pont. Son effectif comprendrait des vedettes rapides et des submersibles lance-roquettes, des drones et des hélicoptères, ainsi que des missiles et radars de croisière navale Radir et Abu Mahdi. Le navire peut transporter presque n'importe quel armement mobile routier développé pour l'armée iranienne, les troupes de défense côtière ou de défense aérienne, y compris le système avancé de missiles anti-aériens Khordad, qui a abattu un drone américain de 220 millions de dollars au-dessus du détroit d'Hormuz en juin 2019. Le déploiement côte à côte du Sarand et du Makran pour leur long voyage semble avoir démontré l'efficacité de la planification des ingénieurs iraniens, le voyage servant d'indication que la République islamique d'Iran a atteint la capacité de projeter puissance mondiale à une fraction du coût et du temps nécessaire pour construire un navire de guerre conventionnel à longue portée. Bref, ce fut un bon baptême de feu pour une 77e flotte au parcours si exemplaire.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 24 juillet 2021. L'Iran a annoncé l'inauguration d'un nouveau terminal pétrolier, alors un projet stratégique et qui permet à la République islamique d'Iran de transférer en effet le pétrole brut depuis Gorée à Jask et justement fournit également la possibilité de créer la capacité de transférer 1 million de barils de pétrole par jour. Alors ce projet s'inscrit dans le cadre, en effet, d'une initiative stratégique de la part de la République islamique d'Iran au moment où ce projet ne seulement fournit à l'Iran de diversifier, en effet, l'origine d'exportation de ces pétroles, mais aussi de contourner, en effet, le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur l'importance de ce projet stratégique met en effet en échec pratiquement la stratégie américaine de pression maximale visant à réduire à zéro l'exportation du pétrole iranien. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
L'inauguration de l'oléoduc Khorejas en Iran a été largement couverte par les médias israéliens qui le qualifient de stratégique. Les médias israéliens spéculent sur l'objectif de la République islamique d'Iran de contourner le détroit d'Ormuz car l'oléoduc Khorejas lui permet de transférer son pétrole vers la zone navale stratégique d'Oman sans traverser le détroit d'Ormuz. Après la mise en application de cet oléoduc, l'Iran ne sera plus la partie ayant peur de la fermeture du détroit d'Ormuz, alors que cette possibilité pourra encore préoccuper les adversaires de l'Iran, qui sont par hasard les alliés arabes d'Israël, indiquent les médias israéliens. En inaugurant l'oléoduc Khorejas, l'Iran s'est fait une barrière sécuritaire en matière d'énergie et sera désormais en mesure de neutraliser toutes les menaces navales. En plus, par l'exportation d'un million de barils de brut par jour via l'oléoduc Khorejas, l'Iran augmente ses revenus pétroliers. Les médias israéliens craignent également que les sanctions imposées au secteur pétrolier de l'Iran ne perdent leur efficacité et que ce pays ne puisse concrétiser ses menaces de fermeture du détroit d'Ormuz sans qu'il en soit touché lui-même. Avant la mise en service de l'oléoduc Khorejas, l'Iran voyait ses exportations pétrolières en baisse en cas de fermeture du détroit d'Ormuz, mais maintenant il a la capacité de fermer ce détroit stratégique si nécessaire, sans que ses exportations en soient touchées. Il est à noter que la République islamique d'Iran ne traite jamais ses voisins hors du cadre de l'amitié et du bon voisinage et qu'elle n'a jamais agi contrairement aux intérêts communs régionaux, ce qui préoccupe le plus Israël quant à l'inauguration de l'oléoduc Khorejas et que ce projet pourrait très probablement alléger les pressions économiques et sécuritaires visant l'Iran. Le projet de l'oléoduc Khorejas incarne en effet l'échec d'un autre complot fomenté par Israël et ses alliés régionaux et extra-régionaux. Le projet comprend un pipeline de 1000 km de 42 pouces, 5 stations de pompage, des stations bidirectionnelles, une station terminale, 20 réservoirs de stockage, 11 sous-stations et une ligne de transport de 300 km dans le secteur terrestre.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse Monsieur le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue français, et depuis Bruxelles Monsieur Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Je vous salue, je salue tous vos auditeurs et votre invité de Bruxelles.
Merci infiniment, Monsieur le professeur Dortillier. Alors, nous allons commencer l'émission avec vous, Monsieur le professeur. Comme vous le savez, la République islamique d'Iran a annoncé ces derniers jours la mise en service d'un important projet stratégique pétrolier. Il s'agit de l'inauguration d'un terminal pétrolier qui permet le transfert du pétrole de Gorée à Jask et par conséquent, en effet, qui permet à la République islamique d'Iran de transférer son pétrole dans la zone navale d'Oman sans traverser le détroit d'Ormuz. Oui. Quelle est l'importance de ce projet, Monsieur le professeur?
Eh bien, elle est, comme l'a très bien expliqué la journaliste qui a brossé le tableau, c'est d'abord une importance stratégique, parce que l'Iran évite, bien sûr, ce qu'on appelle le goulet du détroit d'Ormuz. En cas de tension dans la région, d'opérations militaires, marines par exemple, eh bien l'Iran verrait son pétrole protégé de toutes les opérations qui pourraient être dirigées maritimement contre lui. C'est donc là une très grande importance stratégique qui fait peur justement, qui enrage certainement la presse israélienne. Mais vous avez aussi alors une deuxième conséquence qui est très importante, qui a été, je crois, exprimée par le ministre iranien du pétrole, M. Zangane, que ce projet illustre, je le cite, l'effondrement des sanctions. C'est-à-dire que là, nous voyons que la technique, c'est ce que je retirais comme conséquence, la puissance technique, cette victoire technique de l'Iran, est en effet la seule façon, et la façon la plus excellente, disons, de ruiner pour toujours les complots politiques.
Merci infiniment. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles M. Luc Michel, géopoliticien. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à mon collègue Pierre Dortiguet. C'est toujours un plaisir de le retrouver.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Michel. Monsieur Dortiguet a parlé justement de l'importance et de la conséquence de ce projet. Quelles seront les conséquences, en effet, de ce projet, de cet important projet pétrolier, alors inauguré par la République islamique d'Iran, bien sûr, dans la zone stratégique de la mer d'Oman et surtout du Golfe Persique?
C'est la réalisation d'un projet qui date de 2020. Moi, j'ai consacré en mars 2020 un numéro de mon quotidien géopolitique justement à ce projet. Aujourd'hui, c'est une réalisation. On a parlé de ce port comme étant la porte de l'Iran sur l'océan Indien, puisqu'il débouche sur la mer d'Oman et vers l'océan Indien et pas à l'intérieur du détroit d'Ormuz. Vous savez que la grande peur des Occidentaux, c'est que l'Iran, en rétorsion contre les sanctions, voulant l'empêcher de vendre son pétrole, fermerait le détroit d'Ormuz. La stratégie iranienne, c'est une stratégie offensive qui ne se limite pas d'ailleurs à ça, puisqu'il y a l'expansion vers l'Afrique, vers le golfe de Guinée, en particulier vers des États que l'Iran détourne de la France, comme le Sénégal, comme la Guinée-Conakry ou le Bénin, en particulier le corridor anti-sanctions Téhéran, Caracas et Dakar au Sénégal pour vendre le pétrole. Et il y a l'autre aspect de cette stratégie, c'est l'expansion de la marine iranienne vers l'océan Indien. C'est précisément dans les feux de l'actualité, puisque vous savez qu'il y a quelques jours, il y a eu un coup d'État pro-français avec une tentative d'assassinat du président de Madagascar qui a échoué. Quelques jours après que le ministre de la Défense de Madagascar ait précisément signé des accords de défense avec le ministre de la Défense iranienne, ouvrant les ports de Madagascar à la flotte iranienne, et donc neutralisant les flottes occidentales dans l'océan Indien, comme les mêmes accords conclus avec la Russie dans le golfe de Guinée neutralisent le golfe de Guinée. Actuellement, la marine iranienne est alliée étroitement à la marine russe dans le golfe de Guinée. Il y a le grand amiral commandant la marine Kandazi, qui actuellement est à Saint-Pétersbourg d'ailleurs, pour les 325 ans de la marine russe. Et il y a des mêmes accords avec la marine chinoise dans l'océan Indien. On voit donc que l'Iran, bien loin de subir cette politique de sanctions, riposte par une stratégie offensive. Et je comprends les inquiétudes, évidemment, des Israéliens, des Émiratis, et des Français, des Américains, eux qui pensaient avoir fait des routes de transport maritime du pétrole qui vont du golfe Persique jusque le golfe de Guinée à l'arc occidental, eh bien, ils sont bien revenus de cette stratégie qui a échoué.
Merci infiniment. Monsieur Michel, restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur le professeur Dortiguier, Monsieur Michel a parlé justement, et à juste titre, d'une stratégie offensive de la part de la République islamique d'Iran qui serait à même de neutraliser la stratégie de sanctions et de pression maximale des pays occidentaux, à leur tête les États-Unis. Justement, dans ce contexte, comment les pays occidentaux, comment l'administration Biden, alors vont-ils réagir à cette stratégie offensive de la République islamique d'Iran?
Naturellement, la réaction sera, je dirais, non pas violente, mais disons, il y aura des, non pas des sanctions nouvelles, mais disons des opérations militaires, des alliances que, par exemple, les Israéliens et leurs alliés, leurs nouveaux alliés en tout cas, dans la région, pourront tisser. Des alliances, naturellement, en représentant en représentant l'Iran comme étant une menace de façon très générale. Je crois que je me permets d'apprécier beaucoup ce qu'a dit M. Michel, notre ami Michel, sur ce qui s'est passé à Madagascar, la tentative de déstabilisation du gouvernement qui est liée justement à cette politique, maritime, offensive, cette mobilisation, disons, contre l'Iran et contre, disons, les pays qui veulent échapper, disons, à cet ordre mondial, tout au moins à une partie de l'ordre mondial, qui est représentée donc par les Américains, les Anglais, les sionistes, etc. Bien, et je crois que on ne peut pas en effet séparer ce qui se passe, par exemple, à Madagascar, de ce qui s'est passé maintenant en Iran. Il y a donc de la part de tous les pays de la région, quand ils défendent les intérêts de leur peuple, bien sûr, ils voient très bien que nous avons affaire à une opération de stratégie militaire, maritime, par exemple, de déstabilisation, je dirais même plus de guerre froide, enfin, c'est-à-dire d'hostilité permanente, voyez-vous. Et je crois que la réponse économique et technique est la seule convenable, celle qu'a choisi l'Iran. Et évidemment, cela renforce le camp qu'on appellerait, que notre ami Michel appellerait, que j'appelle aussi, eurasiatique. C'est-à-dire, cela va permettre une solidarité plus grande des pays d'Asie, d'Eurasie, par exemple, avec l'Iran. C'est certain que, voyez-vous, cette conséquence technique, cette réalité technique aujourd'hui, aura des conséquences politiques durables. C'est-à-dire que, tirons des conclusions suivantes, comme l'a dit le ministre donc iranien de l'énergie, les sanctions peuvent être considérées comme inutiles aujourd'hui. C'est-à-dire elles ont fait souffrir l'Iran, mais elles peuvent être surmontées. Et la façon de surmonter ces sanctions, c'est également de faire reculer toute emprise militaire, et en particulier maritime, militaire contre l'Iran. Et je crois que c'est là une très grande victoire remportée, je le dis aussi, par, la mobilisation, la capacité technique de l'Iran. Ça, disons, c'est quelque chose qui fait reculer les adversaires et montre, je terminerai là-dessus, le vrai visage de l'Iran. Ici, qui est caricaturé, comme vous le savez, en Occident, les gens ne connaissent pas la vie de l'Iran, voyez-vous. Et ce succès-là montre justement qu'il y a une puissance économique, donc technique, donc, disons, une grande partie de cette jeunesse de la population, voyez-vous, chez vous, eh bien, disons, elle est à l'origine de ce succès, car c'est la science, la technique, qui est évidemment, disons, le moteur de ce patriotisme.
Merci encore, monsieur le professeur. Monsieur Michel, les médias israéliens ont évoqué, non sans exprimer leur inquiétude, un important projet stratégique de la part de la République islamique d'Iran. Alors, la question qui se pose justement, avec cette neutralisation des sanctions, l'effondrement, comme disait monsieur le professeur d'Ortiguier, l'effondrement des sanctions américaines à l'encontre de la République islamique d'Iran, surtout visant son secteur pétrolier, quel sera l'impact de cette victoire stratégique de la République islamique d'Iran sur la donne géopolitique de la région?
Une nouvelle vague de déstabilisation du bloc occidental qui maintenant repose sur une alliance stratégique entre les États-Unis et la France. Il y a eu des révolutions de couleur tentées dans les trois pays qui se tournent, détournent de la France vers l'Iran. C'est le Sénégal, le Bénin et la Guinée-Conakry. Il y a eu, là c'est contre la Russie, mais où les Russes arrivent militairement, il y a eu une tentative d'assassinat contre le président Touadéra, qui a été il y a quelques semaines en Centrafrique, qui a été neutralisé. Il y a la mort suspecte du maréchal Déby au Tchad, et il y a la tentative d'assassinat qui date de quelques jours contre le colonel Goïta, qui est le dirigeant pro-russe du Mali. Il y a eu donc cette tentative de coup d'État et d'assassinat du président de Madagascar, mais ça ne s'arrête pas là. La principale cible de cette déstabilisation, c'est au centre du golfe de Guinée, c'est la Guinée équatoriale, c'est Malabo. Malabo, c'est le principal allié actuellement des Iraniens. C'est à Malabo, en juillet 2019, que s'est tenu le sommet des États producteurs de gaz, avec la Russie, le Venezuela et grand invité, bien entendu, l'Iran. Et il y a une tentative de déstabilisation. En 2023, il y aura des présidentielles en Guinée équatoriale. Et il y aura la succession du président, le président, donc, Obiang-Neman Basogo. À ce moment-là, les Occidentaux tentent de lancer une révolution de couleur et probablement une tentative de coup d'État avec des mercenaires qui sont en train de se concentrer dans la forêt du Gabon actuellement. Ce sont les mêmes qui ont tenté de renverser Touadéra et le gouvernement de Yaoundé au Cameroun sous la supervision de l'ancien président Bozizé, qui est le joker des Français dans le golfe de Guinée. Il y a actuellement une vague de déstabilisation de la Guinée équatoriale. On essaye de déstabiliser le vice-président en matière de défense, qui est probablement le successeur de l'actuel président. Il y a la tentative, sous prétexte de bien mal acquis, d'opérer une opération d'escroquerie internationale contre la Guinée équatoriale. En bref, tous les pays qui se sont tournés vers l'Iran ou vers la Russie sont visés par cette déstabilisation. Il ne faut pas croire que les Occidentaux sont neutralisés. Ils sont au contraire en pleine contre-offensive. Ce qui caractérise cette nouvelle vague de ce que les Américains appellent les regime change et que nous appelons nous les révolutions de couleur, c'est que cette fois-ci, il n'y a plus seulement le département d'État américain et les réseaux de George Soros, il y a directement partout le Quai d'Orsay.
Merci encore. Alors, retour au pays de la région, M. Dortiguier. Justement, alors, dans cette phase de contre-offensive, bien sûr, d'abord de la stratégie offensive de la République islamique d'Iran, surtout sur le plan économique et pétrolier, et de contre-offensive des pays occidentaux, à leur tête les États-Unis. Alors, quelle approche vont-ils adopter les pays de la région, notamment, je veux dire, les pays les plus proches alliés, en effet, des États-Unis dans la région, avec justement alors cette neutralisation, en effet, des sanctions pétrolières des États-Unis à l'encontre de la République islamique d'Iran. En d'autres termes, est-ce que là, il faudrait s'attendre à une nouvelle approche de la part de ces pays, notamment de l'Arabie saoudite et des pays riverains du Golfe Persique?
Justement, nous pouvons nous attendre à des réactions de la part de l'Arabie saoudite et des pays riverains. Alors cette réaction, bien sûr, comme toute réaction, elle pourrait avoir un côté positif et un côté négatif. Elle sera malheureusement, à notre avis, d'un côté négatif parce que les moyens de chantage sur ces gouvernements qu'ont justement les puissances occidentales, entre guillemets, puissances américaines, sionistes et autres, voyez-vous, est très grand. Ils ont bien pris soin d'établir des relations avec des pays, non pas qu'ils contrôlent, mais sur lesquels ils font un chantage permanent. C'est plus que du contrôle, c'est une sorte de terreur, entre guillemets, politique, bien sûr, exercée sur les dirigeants eux-mêmes. Et je crois que nous ne pouvons pas espérer, disons, un renversement politique de ces pays-là envers l'Iran, mais on peut espérer une neutralisation, c'est-à-dire visant une sorte de recul de leur politique agressive au Yémen en particulier, mais on ne peut pas empêcher, disons, que ces pays de soi ne restent des victimes et des esclaves, disons, des maîtres qui les ont, disons, choisis et qui exercent sur eux, qui sont une pression permanente. Je voudrais simplement dire, M. Codabandé, qu'il faut tenir compte, il faut que les auditeurs sachent que la puissance israélienne est très forte en matière maritime. Elle est renforcée toujours, il faut le dire, par l'existence de ces sous-marins de classe Dauphin, comme on dit, qui sont fournis obligatoirement par l'Allemagne. C'est une sorte de pression exercée sur l'Allemagne vaincue, voyez-vous, et qui sont évidemment des menaces stratégiques considérables, voyez-vous. Et quand on accuse la République islamique d'Iran de vouloir se doter de l'arme atomique, il faut savoir que ces sous-marins sont eux équipés d'armes atomiques, voyez-vous. Je tiens à le dire parce qu'il faut quand même déchirer le voile de l'hypocrisie, voyez-vous, quand on parle de ces choses-là.
Merci encore. Une toute dernière question à M. Michel. M. Michel, donc, la prochaine bataille, en effet, si une nouvelle bataille pourrait en effet avoir lieu, serait maritime, avec notamment les récentes percées maritimes de la République islamique d'Iran, grâce auxquelles justement l'Iran pourrait transférer tranquillement son pétrole.
Écoutez, il faut savoir quelque chose, c'est que l'administration américaine, elle est dirigée par Joe Biden, c'était le vice-président d'Obama qui a lancé le soi-disant printemps arabe et puis en 2014 le printemps africain. C'est le pays qui a été directement en Méditerranée, la Libye et qui l'a détruite et qui a attaqué la Syrie. Il faut donc attendre rien de bon. La réponse du bloc américain occidental, c'est la constitution de l'OTAN du Proche-Orient autour de l'alliance des Saoudiens, des Israéliens, des Émiratis. Au cœur de cette alliance, il y a un axe maritime qui est constitué entre la France et les Émiratis. Les Français qui ont perdu la guerre du Sahel sont en train d'être redéployés par les Occidentaux dans la côte de l'Afrique, au Mozambique, en mer Rouge et en Golfe Persique. Les puissances de l'axe Pékin, Moscou et Téhéran ont compris et revenu la grande leçon de la géopolitique. Vous savez que dans la géopolitique, il y a un affrontement traditionnel, c'est celui de la puissance maritime contre la puissance continentale. La puissance continentale ne peut vaincre la puissance maritime que si elle va la défier pour le contrôle des mers. C'est toujours cela qui s'est passé depuis le premier de ces conflits, Rome contre Carthage, il y a 2500 ans. Carthage qui annonçait les USA et Rome qui annonçait le bloc eurasiatique. À partir de ce moment-là, ça a été compris aussi bien à Moscou, à Pékin que Téhéran. Il y a une alliance des marines russes, chinoises et iraniennes actuellement qui pour la première fois est allée au-delà du Golfe Persique. Les Chinois, pour la première fois de leur histoire, sont allés au-delà de la mer de Chine et d'Indochine. C'est le grand affrontement qui va être celui des 10 prochaines années. C'est l'affrontement pour la domination des mers et en particulier des voies d'approvisionnement du pétrole, du gaz et des matières premières vers l'Occident, c'est-à-dire une zone qui va du Golfe Persique, de la mer Rouge, via le Golfe de Guinée, faire l'entrée de l'océan Atlantique, où est actuellement déployée la flotte iranienne à côté de la flotte russe.
Monsieur Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue depuis Toulouse, je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Pays des merveilles. Des merveilles.
Se dirigeant de Téhéran, la capitale, vers le sud de l'Iran, la nature change peu à peu de visage pour présenter le très beau paysage de la nature qu'est le désert, qui se différencie considérablement du point de vue du climat et des températures, de l'ouest et du nord-ouest, ainsi que du nord du pays. Le désert englobe en Iran Dasht-e-Kavir et Kavir-e-Lut, s'étendant jusqu'au sud-est du pays. En marge du désert se trouvent des villes et des villages avec une architecture remarquable et de belles céramiques ornées de motifs floraux et animaux. Partout, dans les villes, en marge du désert, on distingue des marques et des vestiges des temps lointains qui témoignent du dynamisme, du goût et du talent artistique des maîtres iraniens. Pour cette semaine, nous avons choisi les deux villes Naïn et Khonsar que nous allons vous présenter dans quelques instants. Naïn est une petite ville du centre de l'Iran située à mi-chemin entre Isfahan et Yazd, en bordure de l'immense plateau désertique. Une ville héritière de milliers d'années d'histoire, avec de magnifiques paysages et des gens sympathiques, généreux et gentils. La ville historique de Naïn compte deux tissus anciens et modernes. Le tissu moderne ressemble à toutes les autres villes iraniennes, tandis que le tissu ancien figure parmi les attraits touristiques du monde. La ville compte sept quartiers dont chacun dispose d'une hosseinié où l'on organise des cérémonies et cultes religieux et de réservoirs d'eau dont certains sont toujours actifs. Bien que le tissu ancien de la ville ait connu d'importants changements, cependant ce qui est resté de ces temps immémorieux figure parmi les plus authentiques tissus traditionnels des anciennes villes de l'Iran. Le plus ancien monument de Naïn est une forteresse empisée appelée Naranj Qale ou Narin Qale, dont la construction remonte à une époque se situant entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après Jésus-Christ. De cette forteresse, il reste aujourd'hui une tour de 26 mètres. Elle compte parmi les monuments les plus visités et les plus rares qui peuvent retenir l'attention de tout visiteur et touriste. L'un des autres monuments historiques de la ville est la mosquée Jame de Naïn. Le bâtiment principal de la mosquée date du 4e siècle de l'égire lunaire. La mosquée comprend de très beaux ouvrages de plâtrerie, un mihrab et une porte en bois sculptée, très précieux vu la finesse de son exécution artistique. La mosquée Jame de Naïn, qui est aussi célèbre sous le nom de mosquée des Alavians, a été enregistrée sur la liste du patrimoine culturel de l'Iran. En effet, le style des premières mosquées construites en Iran a été conservé dans l'architecture de ce monument. Naïn est aussi célèbre pour le tissage de tapis. 90% des maisons disposent de métiers à tisser, tandis que presque toutes les filles et femmes iraniennes exercent cet art. Le tissage de tapis était au début un art, mais s'est actuellement transformé également en un commerce. Les tapis tissés à Naïn comptent parmi les marchandises les plus importantes pour l'exportation. On quitte la ville désertique de Naïn pour se rendre dans la belle ville nichée au pied de la montagne de Khansar, où un grand nombre d'oulémas, de faris et d'artistes sont nés et ont été élevés, tels que Ara Hossein Khansari, connu sous le nom d'Allame Khansari, le célèbre maître calligraphe Yadollah Kabuli Khansari ou le musicien de renom Adib Khansari. La ville de Khansar se situe dans une vallée étroite au pied des montagnes Reblé et Golestankour, à côté de la rivière de Khansar. Vu sa haute altitude au-dessus du niveau de la mer, Khansar compte des étés tempérés et des hivers froids. La découverte végétale de la région est constituée de terres agricoles, de jardins, de vergers et de prairies. La ville de Khansar compte environ 450 sources qui se déverse dans des ruisseaux. En effet, la multiplicité des sources a fait donner à la ville le nom de Khansar Cheshmesar, qui signifie Khansar, place des sources. Décrivant la ville, William Jackson s'exprime ainsi. Khansar reste en ma mémoire telle une étendue de monts et de vallons, avec nombre de ruisseaux et de rivières, de prés et de vergers. La ville est dotée d'une situation stratégique extraordinaire, niché au sein d'une vallée étroite entre de hautes montagnes. Les beautés naturelles de cette région ne se limitent pas à la ville de Khansar. On peut trouver aux alentours de la ville des paysages magnifiques, des lieux de camping qui figurent parmi les attraits touristiques de la province d'Ispahan. Golestankour est l'un de ces endroits qui se trouve à 15 km de Khonsar. Golestankour est couvert d'arbustes gaz, arbustes sauvages, d'oignons sauvages et de fleurs telles que les coquelicots renversés, les coquelicots de montagne, etc. La région se couvre surtout au printemps de coquelicots renversés qui, au milieu des arbustes gaz, enchantent tout visiteur. La situation naturelle de Khonsar, ses prairies, ses fleurs et ses plantes ont fait de la ville l'un des centres importants d'apiculture. En effet, l'élevage d'abeilles compte parmi les plus anciennes activités des habitants de Khonsar. La production annuelle du miel à Khonsar atteint des centaines de tonnes, la plupart des familles y trouvant une source de revenus. Parmi les œuvres et monuments historiques de Khonsar, on peut citer des mausolées qui datent de l'époque des Safavides. Le plus célèbre est le mausolée de Pir-e Khonsar ou Baba Pir, ou l'un des plus grands oulémas de l'islam, ainsi que six autres cheikhs et mystiques ont été enterrés. Il y a aussi la grande mosquée de Khonsar qui se situe dans le sud-est de la ville et qui est vieille de 350 ans. Avec une superficie d'environ 3000 m² et des ouvrages de plâtrie très précieux, notamment dans le mihrab, la mosquée Jame de Khonsar compte parmi les plus beaux et les plus précieux monuments de l'histoire de l'Iran. Nous voici au terme de cette émission. Merci de votre écoute. La prochaine fois, nous vous parlerons d'une autre ville ou province de l'Iran, pays des merveilles. Soyez donc nombreux la semaine prochaine aussi pour nous rejoindre sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité. D'ici là, au revoir et bonne semaine.
Thank you.